Session de théologie par le Père Jean-Marie Arimon sur l'Église, peuple et famille de Dieu, le 21 mars 1998, deuxième conférence.
Nous n'avons plus qu'une heure à passer ensemble. Je vous avoue ma tristesse de devoir conclure la partie qui m'était attribuée. Alors, il a été dit au cours, les religieux sont des laïcs, Lumen Gentium, 31 écrit, sous le nom de laïcs, on entend l'ensemble des chrétiens qui ne sont pas membres de l'ordre sacré et de l'état religieux. Donc les religieux ne sont pas des laïcs. Quelle lumière jaillit de ces deux silex frottés ensemble? Aucune. Donc, voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. Pendant les réponses aux questions, on vous donnera une petite feuille qui a été faite par un frère, qui sont les grands lieux dans l'écriture par rapport à l'Église. Vous verrez, donc vous emmènerez ça, puis comme ça vous pourrez aller voir, principalement dans le Nouveau, du moins a priori uniquement dans le Nouveau Testament, les lieux qui nous parlent des analogies, par exemple celle du corps, la vigne, l'épouse, la construction, le peuple, et sur la constitution de l'Église, Pierre, la hiérarchie et le royaume. Donc là vous avez des lieux de référence. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'il reste un travail colossal à faire. Alors, avant de vous donner la continuité de la lecture, je voudrais revenir à la conclusion que je voulais faire du travail que je faisais avec vous. Alors, je suis désolé de le prendre dans cet ordre parce que je crains ou sinon que la conclusion ne soit pas faite. Donc, la conclusion, elle nous renvoie à la structure de Lumen Gentium. Pourquoi ? Parce que cela me semble le lieu nouveau actuel de l'ecclésiologie. L'enjeu du Concile Vatican II, dans la constitution Lumen Gentium, c'était de regarder le mystère de l'Église comme reflet du mystère de la Très Sainte Trinité, et le rapport de l'Église au Père, au Fils, à l'Esprit Saint. Rapport au Père qui, dans l'origine de toute chose, dans l'économie du salut, constitue un peuple qui est le peuple des sauvés, en même temps ce peuple des sauvés unissant la nature humaine à une mission de visibilité de ce salut. Le rapport à la personne du Christ qui, d'une certaine façon, continue l'œuvre de l'incarnation et donc de la rédemption. Et le rapport à la personne de l'Esprit Saint qui est la finalité de la vie de l'Église, qui est la sanctification. Bon, tout ça dit rapidement, vous voyez, l'intention structurelle d'une réflexion sur l'Église au Concile Vatican II est celle-ci. Dans la lumière du mystère de la Très Sainte Trinité, je vais pouvoir comprendre ce qu'est l'unité des membres de l'Église qui devient un peuple. Autrement dit, les hommes unifiés par le Christ deviennent membre d'un peuple qui est le peuple de Dieu. Dans cette lumière, je vais regarder ce qu'est la hiérarchie de l'Église. Et la hiérarchie de l'Église, d'abord c'est sous le point de vue la plénitude du sacerdoce, hein, l'épiscopat. Vous voyez la structure épiscopale, le rapport à Pierre. Et puis la dimension sacerdotale. Dans le prolongement, la place des fidèles laïcs, et après le rappel de la finalité, l'appel à la sainteté, qui d'une façon particulière est manifesté à travers le témoignage de la vie religieuse. Car qu'est-ce que la vie religieuse, sinon le témoignage visible de l'amour de Dieu qui prend l'ensemble de la personne humaine? C'est ça un religieux. Un religieux, c'est le témoignage entre guillemets charismatique, plutôt visible, du fait que l'amour de Dieu est capable de prendre la totalité de la personne humaine. Et dans un dernier temps, le Concile termine sur la dimension eschatologique et la dimension mariale. Alors, vous voyez, la conclusion que je voulais faire, c'est, fort de cette avancée théologique, au point de vue ecclésiologique, quels sont maintenant les axes sur lesquels la réflexion théologique et le magistère nous poussent à réfléchir? Et cet axe, c'est la catéchèse de Jean-Paul II, sur l'Église et la Vierge Marie. Donc je voudrais vous faire réfléchir un petit peu là-dessus, parce qu'il y a quelque chose de très novateur qui, paraît-il, pourrait aboutir au jubilé, à la proclamation d'un dogme. Donc vous voyez, ce n'est pas anodin pour la théologie. Vous voyez, la problématique est la suivante. C'est que dans sa catéchèse sur la Vierge Marie, le Saint-Père essaie de définir la personnalité de l'Église. Alors, je vais essayer de m'expliquer rapidement. Mais dans l'Église, il y a deux aspects. L'Église, c'est d'abord l'incorporation au Christ, et donc, étant membre de l'Église, je fais partie du corps du Christ. Autrement dit, l'Église, c'est le corps mystique du Christ. Je vous renvoie à Corporis Mystici de 1943, du pape Pie XII. Cependant, la modalité propre par laquelle s'exerce la personne de l'Église, c'est une modalité d'épouse. Autrement dit, l'Église, c'est quoi? C'est l'épouse du Christ. Donc, vous voyez, tout en étant le corps du Christ, la modalité par laquelle le corps se constitue, c'est sous une modalité sponsale. Autrement dit, l'affirmation traditionnelle de l'Église, l'Église est épouse du Christ. Et toute la réflexion du pape Jean-Paul II, c'est de montrer ce que signifie cette personnalité d'épouse. Et pour lui, cette personnalité d'épouse, eh ben, c'est en Marie qu'on la découvre. Autrement dit, un renouveau de l'ecclésiologie par la mariologie. Et c'est l'invitation que le Saint-Père fait à l'Église universelle et principalement aux théologiens. Comprendre que la lumière que Lumen Gentium nous a donnée sur l'Église comme reflet du mystère de la très sainte Trinité et comme aboutissement à l'Église corps mystique du Christ doit être approfondie aujourd'hui pour nous à travers la personnalité spécifique de l'Église. Cette personnalité spécifique, elle est sponsale, et le lieu où j'arrive à découvrir la dimension sponsale de l'Église, c'est à travers la mariologie. J'espère que tout le monde suit, alors ça va être un peu compliqué la suite. Mais bon, pour l'instant, c'est à peu près simple, je l'espère. Alors, là-dessus, la réflexion de Jean-Paul II, elle va conduire à dire, en reprenant l'affirmation du catéchisme de l'Église catholique, là où le Christ est sauveur, Marie est mère. Quand même une affirmation forte. Autrement dit, là où l'œuvre de salut s'opère, la maternité divine de Marie est présente. Une maternité divine qui ne va pas simplement à la maternité biologique. Autrement dit, l'adéquation entre ce qu'est Marie qui va permettre au Verbe de se faire chair. Donc ce n'est pas simplement une disposition en vue de l'incarnation, mais c'est une maternité qui se tire de la croix. Et donc Marie est celle qui est présente quand le salut s'opère. Ce qui signifie qu'elle coopère au mystère de salut sous le mode de la maternité. Et ce mode de la maternité, quel est-il, d'après ce que nous dit Jean-Paul II, en reprenant l'affirmation du père Kolb, c'est que Marie est la réponse adéquate à l'œuvre de sanctification que l'Esprit-Saint réalise en elle. Autrement dit, le modèle parfait de la réponse de la charité. Et c'est pour ça qu'elle est mère. Et c'est ce qui fonde le fait que Marie devient le modèle pour découvrir ce qu'est l'Église. Vous voyez, le souci du souverain pontife, c'est de nous faire comprendre que le regard ultime aujourd'hui que je peux avoir sur l'Église, c'est à travers le mystère de Marie. Il y a un mystère fondamental qui est celui donné par le rapport entre l'Église et chacune des personnes de la très sainte Trinité. Mais le mode particulier par lequel j'apprends à connaître l'Église, c'est Marie. Et c'est là, me semble-t-il, où nous avons à redécouvrir que pour nous, vivre de l'Église, c'est vivre d'abord d'un mystère marial. Alors comprenez, hein, quand je parle d'un mystère marial, je ne parle pas de dévotion mariale. Ne confondons pas tout. Et je ne suis pas dans... Donc pour vivre de l'Église, c'est on va tous aller faire un petit pèlerinage dans le Champ des Roses, et puis ainsi de suite, vous voyez, ce n'est pas du tout mon propos. Et quand je parle de mariologie, je parle du dessein de Dieu réalisé à travers Marie, ce qui est très différent. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que ça dépasse tout le monde ce que je dis, mais vous voyez, le lieu de recherche, il est véritablement là. C'est comprendre que pour nous, le mystère de l'Église, c'est d'abord approfondir le mystère de Marie. Alors, là, je pense que c'est un des lieux où il faut interroger le Père Philippe. Je crois que là, si vous avez un peu la pertinence des bonnes questions, c'est sûrement un des lieux où on doit l'interroger. Parce qu'à mon avis, il a sûrement quelque chose à nous dire. La conséquence pratique de tout ça pour l'Église, c'est quand je dis l'Église, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je dois maintenir ces deux aspects. La dimension de l'Église, corps du Christ, comme étant le reflet du mystère de la Très Sainte Trinité, et la personnalité spécifique, c'est-à-dire le mode par lequel l'Église s'exerce, qui est la dimension sponsale, et donc la dimension d'alliance dans l'amour. Alors vous voyez, les conséquences, elles sont immédiates. Pourquoi ? Parce que maintenant, je ne peux concevoir, vous voyez, un regard sur l'Église que présidé par l'union sponsale entre le Christ et son Église. Cela réalisé en Marie. Ce qui fait que l'intelligence que j'aurai de l'Église a largement dépassé l'intelligence dont je parlais dans les dernières réflexions qu'on a eues ensemble, par rapport au point de vue hiérarchique ou par rapport à l'exercice. Et l'intelligence que j'aurai de l'Église, eh bien, la clé, c'est l'union sponsale réalisée en Marie. Ça signifie que mon appartenance radicale à l'Église, et donc d'une certaine façon la modalité baptismale, eh bien je la découvre dans sa pleine réalisation à travers ce que Marie vit. Vous voyez, c'est important pour comprendre que là je situe la Vierge Marie dans le mystère de l'économie divine. Je ne la situe pas simplement dans la sensibilité chrétienne. Et autrement dit, elle est donnée par Dieu comme le lieu, et comme disait le Père Kolb, alors avec d'une façon un peu ambiguë, comme la quasi-incarnation de l'Esprit-Saint. Ambiguë parce que ça veut tout et rien dire, cette expression. On voit un petit peu l'intention qui est derrière, mais on peut tout en dire. Le pire comme le meilleur. Voilà, ça c'est un axe, hein. Je voulais à tout prix commencer par la conclusion, parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps de dire cela. Alors que ça me semble l'essentiel à dire, même si c'est quelque chose que vous comprenez le moins facilement. C'est pas grave, vous me demanderez qu'il y aura des questions-réponses, je suis sûr que le frère qui s'occupe de ça expliquera ça avec une dextérité plus pertinente que la mienne. Alors, maintenant revenons à Lumen Gentium. Nous avions terminé la lecture du paragraphe 2. On va lire ensemble quelques aspects du paragraphe 3 et 4. Il me semble important de saisir l'unité des missions visibles. Vous voyez, on a d'abord parlé, vous voyez, le schéma qui est sous-jacent à ça, c'est un schéma des missions trinitaires. Hein. Le Père envoie, donc il est à l'origine de tout. Le Fils est l'envoyé, l'Esprit-Saint est celui qui accomplit. Ça, c'est une constante dans la révélation de la Très-Sainte Trinité. Et cette révélation de la Très-Sainte Trinité va être le lieu où l'Église est révélée et où l'Église est manifestée. Alors, je vous lis le texte. « Ainsi le Fils vint, envoyé par le Père, qui nous avait choisi en lui avant la création du monde et prédestiné à une adoption filiale, selon son libre dessein, de tout rassembler en lui. » C'est pourquoi le Christ, pour accomplir la volonté du Père, inaugura le royaume des cieux sur la terre, nous révéla son mystère et par son obéissance effectua la rédemption. L'Église, qui est le règne de Dieu déjà mystérieusement présent, opère dans le monde par la puissance de Dieu sa croissance visible. commencement et développement que signifient le sang et l'eau sortant du côté ouvert de Jésus crucifié, et que prophétisent les paroles du Seigneur disant de sa mort en croix, « Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes ». Toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ, notre Pâque, a été immolé, se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère, en même temps par le sacrement du pain eucharistique et représenter, réaliser l'unité des fidèles qui, dans le Christ, forment un seul corps, à cette union avec le Christ qui est la lumière du monde, de qui nous procédons, par qui nous vivons, vers qui nous tendons, tous les hommes sont appelés. Vous voyez, là, il y a des aspects très importants. Le premier, c'est le sens fondamental du mystère de l'incarnation. Que va réaliser l'Église ? Autrement dit, l'Église est le lieu où le mystère de l'incarnation rentre dans l'histoire. Chose importante, ce mystère de l'incarnation qui va s'opérer, du moins qui va opérer la rédemption, selon la puissance divine, il aurait pu être un acte qui soit plaigné en lui-même. Il l'est dans son intensité, il ne l'est pas dans son extension. C'est ce que souligne la place de l'Eucharistie dans le mystère d'Église. La place de l'Eucharistie dans le mystère d'Église signifie que la rédemption va pouvoir s'établir dans l'extension de l'humanité. Le salut est déjà opéré, cependant il va s'étendre. Donc oui, une des premières dimensions du rapport de l'Église au Christ, c'est de permettre l'extension du mystère de la rédemption, qui, tout en étant déjà accompli, demande de s'achever dans les membres que sont les baptisés et qu'est l'ensemble de l'humanité. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect de l'Eucharistie qui va constituer l'Église, hein, le fondement il est dans son rapport au Christ, vous voyez, l'Eucharistie constitue l'Église dans un double sens, en tant qu'il permet la communion de chacun des fidèles, et deuxièmement, en tant qu'il est capable d'avoir une ouverture universelle. Et cette dimension de visibilité. Vous voyez, si l'Église, par la célébration de l'Eucharistie, c'est-à-dire la célébration du sacrifice du Christ, permet l'unité des fidèles, elle permet aussi l'extension de la rédemption à l'ensemble des hommes. Donc de permettre en soi l'extension du mystère de la rédemption. On a toujours ces deux aspects, hein, le mystère du salut et le mystère de la visibilité. Donc l'Église réalise le salut, mais en même temps elle rend visible ce salut. Et c'est toujours ces deux aspects qu'il faudra tenir. Si je n'en garde qu'un, je mutile ce qu'est l'Église. Alors vous voyez, la conséquence très pratique pour chacun d'entre nous, c'est de voir que je suis invité premièrement et fondamentalement à participer au sacrifice eucharistique comme le lieu de l'offrande de moi-même à Dieu. Mais cette offrande, elle réclame d'être signifiante. Elle n'est pas que signifiante dans mon intériorité, mais elle est signifiante par ce que je suis. Et donc elle est signe visible pour le monde. C'est extraordinaire. Ce qui signifie que quand je vis mon union avec le Christ, d'une façon concomitante, je suis automatiquement signe visible du mystère de Dieu. Et c'est pour ça, n'oubliez pas, quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Et je crois que c'est important de voir que, vous voyez, c'est un aspect de notre dignité baptismale. Hein. C'est que nous sommes les porteurs du mystère de Dieu. Alors, le troisième aspect, qui est le rapport à la personne de l'Esprit-Saint. Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre, le jour de Pentecôte, l'Esprit-Saint fut envoyé, qui devait sanctifier l'Église en permanence et procurer ainsi aux croyants, par le Christ, dans l'unique Esprit, l'accès auprès du Père. C'est lui, l'Esprit de vie, la source d'eau jaillissante pour la vie éternelle, par qui le Père donne la vie aux hommes que le péché avait fait mourir, en attendant de ressusciter dans le Christ leur corps mortel. L'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles comme dans un temple. En eux, il prie et atteste leur condition de fils de Dieu par adoption. Cette Église qui introduit dans la vérité tout entière et à laquelle il assure l'unité dans la communion et le service, il l'équipe et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Il l'orne de ses fruits. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Celui qui va faire de l'Église un corps organique, c'est l'Esprit-Saint. Et cela de deux manières, d'une façon hiérarchique et d'une façon charismatique. J'insiste sur le fait que trop souvent, on considère que c'est nous-mêmes qui allons donner la dimension organique à l'Église. Alors on va dire, bon voilà, il y a telle chose à faire, il y a telle demande, on va créer le moyen par lequel on va répondre à cette demande. Vous voyez, fondamentalement, celui qui organise, qui rend organique l'Église, c'est le sanctificateur. D'une double manière, à travers la sanctification de notre vie personnelle et à travers la sanctification de nos relations interpersonnelles. Et c'est là où nous avons à redécouvrir, hein, d'une façon fondamentale, que l'œuvre qui est réalisée dans l'Église, elle dépend de Dieu. Alors souvenez-vous, vous lirez ça dans les Fioretti de Jean 23, et Jean 23 vient d'être élu pape. Vous savez, il avait un humour. Et alors, il sort du conclave, puis pour charrier les cardinaux qui étaient là, il regarde et dit, oui, tout ça c'est à moi. Maintenant c'est à moi tout ça. Et puis, trois jours après, il est devant ces mêmes cardinaux qui s'inquiètent. C'est, oh là là là, on a élu quelqu'un qui ne devait pas durer, on a l'impression qu'il va durer. Bon, vous voyez, l'inquiétude humaine. Et puis, la réflexion de Jean 23 à ce moment-là, c'est, il relate un des songes quand il était, je crois, quand il était nonce. Et puis, l'Esprit-Saint lui parle, tout simplement, c'est normal d'ailleurs, et lui dit, dis donc mon bon Jean, qu'est-ce qui gouverne l'Église? C'est toi ou c'est moi? Si c'est toi, ne dors plus jamais. Si c'est moi, tu peux même dormir toute la journée. Vous voyez, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas coopérer. On va dire, bon, très bien, on va tomber dans le quiétisme et la tranquillité. Mais ça veut dire qu'il faut rentrer dans un registre de coopération avec l'Esprit-Saint. Et c'est là où on a besoin d'une véritable conversion. Parce que quand on parle de coopération, soit d'un côté, on attend que l'Esprit-Saint agisse et on ne fait rien, soit de l'autre côté, on prend toute la place. Et puis l'Esprit-Saint, il ne peut même plus s'exprimer. Vous voyez, là, c'est un grand lieu de discernement dans notre manière de vivre, hein, au point de vue de la foi. Que signifie coopérer à l'œuvre de l'Esprit-Saint? Apprendre à lui laisser de la place? Alors là, je vais vous donner la réponse, à mon avis, la plus extraordinaire de l'histoire de l'Église. C'est la réponse ignatienne. Et vous verrez, elle est ignatienne jusqu'au bout des ongles. Et saint Ignace nous dit, cet adage extraordinaire, croyez que Dieu fait tout, agissez comme si vous étiez seul. On voit bien ce que ça veut dire. Autrement dit, on tient les deux bouts sans résoudre rien du tout. Mais au point de vue de la conscience que l'on a de notre coopération, c'est ça. Je coopère et j'ai l'impression que je fais tout, mais en même temps, je dois croire que c'est Dieu qui agit en moi. Et là, ça demande une sacrée conversion. D'où la nécessité d'un charisme qui est premier dans la hiérarchie de l'Église, c'est le charisme du discernement. Parce qu'à l'un, il a été donné de discerner. Et c'est le sens de l'autorité. Mais l'autorité va permettre la constitution organique de la vie de l'Église, parce que par elle, j'ai un lieu de discernement, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et ce lieu de discernement, on le verra dans un des chapitres suivants, il est toujours finalisé par la sainteté. Autrement dit, c'est mettre au service le charisme de discernement qui est lié à l'autorité de l'Église, en vue de la sainteté de chacun des membres et du resplendissement de l'Église. Et vous voyez, là il y a une vraie question existentielle au point de vue de notre vie chrétienne. Comment je peux discerner que je coopère vraiment à l'Esprit-Saint? Et selon les tempéraments, ça donnera quelque chose de... Et le tempérament actif primaire qui ne se pose aucune question, c'est en avant on fonce, égale l'œuvre de l'Esprit-Saint. Le tempérament tertiaire, ou voire encore plus compliqué et plus retourné sur lui-même, Je m'assois, je regarde ce qu'il y a autour de moi, je me dis qu'est-ce que le Seigneur me demande, résultat, je fais rien. Et c'est intéressant de voir quel est notre type de tempérament à cet égard. Soit je suis le tempérament fonceur, puis aucune question. Soit je suis tellement tertiaire au mauvais sens du terme, oh là 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 là. Ou le tempérament de type culpabilité chronique. Mon Dieu, j'ai fait ça, mais est-ce que c'est vraiment l'Esprit Saint? Alors, il y a 100 personnes qui nous disent, mais oui, on ne peut rien changer, c'est, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Vous voyez, il faut apprendre à se connaître, hein, au point de vue du tempérament, parce que c'est ce qui nous permet de découvrir notre mode d'exercice. Et c'est ce mode d'exercice qu'il va falloir évangéliser. Et un des lieux pratiques de la vie chrétienne qu'on doit évangéliser, c'est apprendre à coopérer avec l'Esprit Saint. Et on se rend compte que c'est excessivement difficile. C'est pour ça qu'on a besoin d'une confirmation. De temps en temps, il est bon, c'est le sens du père spirituel dans notre vie personnelle, mais c'est aussi le sens de l'autorité dans l'Église. De temps en temps, il est bon d'aller demander un discernement sur notre manière de vivre et notre manière d'opérer notre annonce de l'Évangile. Alors retenez ça, l'Esprit Saint orne de ses fruits l'Église. Alors, je vais tout de suite passer vous devez l'avoir sur vos feuilles, au paragraphe 8, sur la dimension visible et spirituelle de l'Église. Le Christ unique médiateur crée et continuellement soutient sur la terre comme un tout visible son Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité, par laquelle il répand à l'intention de tous la vérité et la grâce. Cette société organisée hiérarchiquement d'une part et le corps mystique d'autre part, l'assemblée discernable aux yeux et la communauté spirituelle, l'Église terrestre et l'Église enrichie des biens célestes, ne doivent pas être considérées comme deux choses, elles constituent au contraire une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, d'une certaine façon, c'est le reflet de ce que l'on dit. Mais l'analogie qu'on pourrait faire au point de vue de la christologie, les actes du Christ sont des actes théandriques, autrement dit, en même temps de l'homme et en même temps de Dieu, du fait de l'unité dans sa personne divine, de la nature humaine et de la nature divine. Il y a une analogie pour comprendre ce qu'est l'exercice de la vie de l'Église. L'Église est en même temps une réalité divine et une réalité humaine. Et cela dans l'unité du corps mystique du Christ. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dissociation. Je peux, d'une certaine façon, distinguer, mais je ne peux surtout pas séparer. Ce qui signifie que dans son exercice même, l'Église signifie la nature du corps mystique du Christ. Et non pas simplement les raisons visibles que je vois et que j'essaie d'interpréter pour qu'elles soient le lieu d'une... C'est signe qu'il faut que je me taise. Ou peut-être que je réveille ceux qui dorment au fond. Vous voyez, c'est le signe. Vous voyez, je crois qu'il est important de voir que là, on a un enjeu très important. Ne pas dissocier la dimension visible de la dimension invisible. Parce que la dimension invisible ne peut être donnée que dans la dimension visible. Pour ça, je vais vous donner deux exemples. L'exemple du baptême, et après, un exemple plus proche sur la vie de l'Église. Souvent, on s'imagine que un sacrement, c'est une réalité visible qui est signe d'une réalité invisible. Et dans l'imaginaire populaire, on a le baptême, l'eau qui coule sur le front, le prêtre qui dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Voilà, ça c'est la matérialité. Et puis après, du haut du ciel, il y a Dieu qui agit, le don de la grâce. Ben, ce n'est pas comme ça qu'on peut voir les choses. C'est à travers la vertu matérielle de l'eau et des paroles ajoutées à cet élément matériel que la grâce est donnée. Autrement dit, la matérialité est le lieu où la visibilité se réalise, et non pas simplement le prétexte à cette visibilité. Autrement dit, c'est la vertu même de l'eau, et l'eau n'est pas simplement un prétexte symbolique. Vous voyez, là derrière ça, il y a toute la théorie des sacrements qui sont chez nos frères séparés. Vous voyez, la théologie, le magistère de l'Église, actuellement, a cette affirmation, à mon avis, merveilleuse, du respect de l'élément matériel. Autrement dit, c'est la vertu spécifique de cet élément matériel qui signifie la réalité spirituelle, et non pas en parallèle, une sorte de scénette que le prêtre ferait, et puis Dieu qui agit en parallèle. Dieu agit dans la virtualité de l'instrument. C'est exactement la même chose pour l'Église. On pourrait souvent se dire, les hommes font leur cirque et puis Dieu agit à côté. Et d'ailleurs, c'est souvent la solution qu'on imagine. Vous voyez, imaginons, chose qui n'a aucun rapport avec ce qui peut se vivre actuellement, on prépare un chapitre général et puis on est en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va, ouais, la dimension humaine. On réfléchit là. Vous voyez, bon, je ne vais pas prendre cet exemple. Je vais prendre plutôt l'exemple un consistoire. C'est nettement plus important. L'acte des cardinaux qui vont élire le pape. Il y a le journaliste qui est là-dedans. Il va voir quoi, le journaliste? Le journaliste, il va voir le cardinal untel qui invite à dîner tel autre cardinal pour parler ensemble, pour dire qu'est-ce que tu penses de celui-là. Voilà, ça, c'est les minutes d'avant le conclave ou pendant le conclave. Et nous, on est friands de ça, vous savez, les lecteurs de Paris Match. C'est minuté. L'accident d'un tel minuté, avec les photos à l'appui. Et notre imaginaire est très content. C'est curieux comme quoi on se rue sur ce genre de truc. Et puis après, on se dit, bon, dans tout ça... l'action de l'Esprit-Saint. Eh bien non. L'action de l'Esprit-Saint, elle se situe aussi au niveau de la matérialité des choses. Donc dans la dimension de la visibilité de l'Église, je vais découvrir l'action de l'Esprit-Saint. Ça a une double importance. La première, de responsabiliser notre manière de vivre notre vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Être membre de l'Église, ce n'est pas un jeu, c'est une sacrée responsabilité. Parce que c'est l'engagement de ma part d'être le reflet du mystère de Dieu. Ça, c'est la première chose. Ça me rend responsable. Et la deuxième chose, c'est l'infinie miséricorde de Dieu qui respecte ce que je suis dans mon instrumentalité. Vous voyez, pour comprendre un petit peu ce que c'est qu'un instrument choisi, je dis bien un instrument choisi. D'abord, je vais vous montrer ce que c'est qu'un instrument, vous voyez, non adéquat. On vous demande d'aller laver ce carreau, vous le faites avec un marteau. Vous êtes d'accord? C'est pas tout à fait adéquat. Non? Ah, parce que vous faites comme ça. Bon. Vous voyez, on vous demande de balayer l'escalier, vous commencez par la marche du haut. Ça, c'est adéquat. C'est bien, ça. Je voulais parler de la marche du bas. Peu importe. Qu'à ça réveille. Vous voyez, et chose importante, c'est de voir que, vous voyez, l'instrument, il a une vertu propre. Eh bien, Dieu respecte la vertu propre de l'instrument. Et donc, c'est cette vertu propre qui va être signifiante. Et trop souvent, on dit, oh, on est des pauvres types, soyons de plus en plus de pauvres types, comme ça on sera de plus en plus signifiant du mystère de Dieu. Ben, je suis désolé, c'est pas respecter Dieu, ça. Vous voyez, c'est cette spiritualité de la kénose qui fait que plus on est mauvais, plus on manifeste Dieu. Ben, je suis désolé, plus on est mauvais, plus on se manifeste mauvais. C'est pas du fond de ma nullité que la lumière divine va jaillir automatiquement. Vous voyez, c'est une sorte de spiritualité de la médiocrité qui fait que... Bon, et cela argumenté par l'Écriture. Ah, hein, oh, nous sommes des vases fragiles. Des vases fragiles dans lesquels le mystère... Vous voyez, en fin de compte, l'instrumentalité a complètement disparu et mon rapport à Dieu, c'est un rapport avec un magicien. Seigneur, je suis un marteau, mais j'ai beau être un marteau, c'est pas grave, tu peux laver ce carreau avec. Eh ben non, je suis désolé, on ne peut pas laver un carreau avec un marteau. Donc, vous voyez, il y a tout un travail de coopération pour devenir l'instrument adéquat. Et c'est comme ça que le Seigneur orne son Église, afin qu'elle puisse porter du fruit. J'insiste là-dessus parce que, vous savez, je suis impressionné par la canalisation de la médiocrité dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes des gens médiocres, en plus fiers de notre médiocrité. Ben, je ne parle pas de nous ici, bien sûr, présent, c'est bien évident. En revanche, vous voyez, souvent, au nom d'une soi-disant spiritualité de l'humilité, on est des instruments, en fin de compte, bons à rien. Alors on va bien sûr légitimer ça par la petite balle du bon Dieu qui sert à rien, selon la petite Thérèse. Bon, avant d'interpréter ça, soyons d'abord au Carmel, puis après on verra comment on doit le vivre. Et quand on est laïque dans le monde, c'est sûrement pas comme ça qu'on doit le vivre. Et c'est vrai que bien souvent, on est des instruments inutiles, parce qu'on n'est même plus instruments. Vous voyez, le sens de notre responsabilité pour devenir des vrais instruments. Ça ne veut pas dire que le Seigneur nous utilisera automatiquement. Il nous mettra peut-être sous le placard comme la petite balle dont l'enfant Jésus a joué pendant 3 minutes, puis après ça ne l'intéresse plus. Peu importe ça. En revanche, je me serais disposé à faire en sorte que l'Esprit Saint permette en moi de porter du fruit. Et d'une certaine façon, j'en suis responsable. Ce qui signifie pratiquement que nous avons à découvrir que mon engagement dans l'Église, c'est tout en étant un engagement spirituel, c'est un engagement visible. Et donc je ne peux pas rester là à rien faire, vous savez, les ouvriers de la dernière heure. Que faites-vous ici à rien faire? De temps en temps, il faut le prendre pour nous, ça. Alors, à partir du moment où on a compris qu'il y a un engagement visible de notre part, cet engagement, quel doit-il être selon l'état de vie dans lequel le Seigneur nous a mis? Vu le temps qui nous reste, je vous passe l'engagement du corps épiscopal et du sacerdoce. Je vous passe l'engagement de la vie régulière, de la vie religieuse. Je voudrais regarder avec vous l'engagement du laïc. Que signifie être un instrument qui rende visible l'œuvre de l'Esprit-Saint en tant que fidèle laïc? Alors là, vous allez voir, c'est de temps en temps pétillant. Pourquoi? Parce qu'on ne distingue pas les niveaux. Souvent, on considère que la vocation chrétienne, c'est avant tout une perfection spirituelle qui ne peut se terminer qu'au couvent. Donc vous voyez, un vrai laïc, c'est quelqu'un qui a la nostalgie du couvent. Combien de fois j'ai entendu ça, hein? Autrement dit, vous voyez, le laïc à plaigner, c'est en fin de compte, on termine au couvent. Mais je suis désolé, c'est pas du tout ça. Alors, pour ça, je vais vous lire rapidement ce que dit le Concile. Là, c'est le paragraphe 30. Le Saint-Concile, ayant précisé les fonctions de la hiérarchie, se plaît à tourner sa pensée vers la condition de ces chrétiens qui portent le nom de laïc. Si en effet tout ce qui a été dit du peuple de Dieu concerne à titre égal laïc, religieux et clair, cependant aux laïcs, hommes et femmes, en raison de leur condition et de leur mission, reviennent en particulier un certain nombre de choses dont les circonstances spéciales à notre temps obligent d'étudier de plus près les fondements. Autrement dit, quel est le fondement particulier du laïcat? Les pasteurs sacrés savent bien l'importance de la contribution des laïcs au bien de l'Église entière. Ils savent qu'ils n'ont pas été eux-mêmes institués par le Christ pour assurer eux seuls tout l'ensemble de la mission salutaire de l'Église à l'égard du monde, leur tâche magnifique consistant à comprendre leur mission de pasteur à l'égard des fidèles et à reconnaître les ministères et les grâces propres à ceux-ci de telle sorte que tout le monde, à sa façon et dans l'unité, apporte son concours à l'œuvre commune. Autrement dit, selon la diversité de ce que nous sommes, nous avons tous à coopérer à l'œuvre commune. Chose importante, vous voyez, on pourrait le prendre aujourd'hui, les laïcs prennent de la place parce qu'il y a moins de prêtres. C'est clair que c'est un facteur, ça, psychologiquement, c'est la première constatation qu'on fait. Les prêtres ne sont pas nombreux, donc concrètement, ils font appel aux laïcs. Ça, c'est la raison contingente. Derrière ça, il y a une raison de sagesse de Dieu. Quelle est la véritable coopération de tous au bien commun? Alors, pour préciser ça, je vous lis la suite du texte un petit peu plus bas. Il est donc bien évident que pour tous, que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur rang, dans la société terrestre, elle-même, ses saintetés contribuent à promouvoir plus d'humanité dans les conditions d'existence. Les fidèles doivent appliquer les forces qu'ils ont reçues selon la mesure du don du Christ à obtenir cette perfection afin que, marchant sur ses traces et devenu conforme à son image, accomplissant en tout la volonté du Père, ils soient avec toute leur âme voués à la gloire de Dieu au service du prochain. Ainsi, la sainteté du peuple de Dieu s'épanouira en fruits abondants, comme en témoigne avec éclat l'histoire de l'Église par la vie de tant de saints. Autrement dit, le lieu où la vocation de l'Église va se découvrir, c'est de permettre de porter l'éclat de l'Évangile dans les domaines dans lesquels ils sont. Et le caractère spécifique, là je vous renvoie à un texte de Paul VI, le caractère spécifique du laïc, c'est d'être dans le siècle. Et c'est dans le siècle qu'il doit apporter l'éclat de l'Évangile. Contrairement au prêtre qui n'est pas dans le siècle, il n'est pas formellement qualifié par le fait qu'il est dans le siècle. Tandis que le laïc est formellement qualifié par le fait qu'il est dans le siècle, c'est-à-dire dans le monde. Et c'est dans le monde où sa propre vocation doit pouvoir se réaliser. Et là, vous voyez, c'est un appel, me semble-t-il, à découvrir déjà la place du laïc dans le monde, quelle est-elle. Vous voyez, souvent, on pense que coopérer à la vie de l'Église, c'est coopérer au fonctionnement de l'Église. Alors c'est vrai, on a besoin de gens qui nous aident. Mais le problème, c'est pas ça d'abord le sens du laïcat. C'est pas être, la petite main du curé. C'est d'être dans le monde séculier dans lequel nous nous trouvons, par notre travail, par nos responsabilités associatives et autres, le lieu où l'Évangile peut être annoncé. Autrement dit, ce n'est pas une fuite du monde, mais c'est un enfouissement dans le monde afin qu'on puisse porter du fruit dans ce monde. Et je suis impressionné par le fait que trop souvent, les laïcs passent leur temps à fuir le monde. Donc ils ne sont plus laïcs. Et les curés passent leur temps à rentrer dans le monde. Vous voyez, c'est impressionnant, vous voyez, le règne de la confusion. Et le pasteur, il passe son temps à vouloir rentrer dans le monde, et le laïc, il passe son temps à vouloir en sortir. Alors, ça devrait exactement le contraire. Et c'est vrai que, fondamentalement, on a tous une trouille d'être dans le monde quand on est établi dans un état de vie qui est véritablement enraciné dans le monde. Parce que premièrement c'est difficile, c'est un lieu de combat, bon qu'est-ce qu'on fait, vous voyez, notre vie chrétienne, et hop, on file faire une retraite. On file pour un temps de formation. C'est très bien la retraite et le temps de formation, mais si c'est pour nous faire fuir la réalité dans laquelle nous sommes, c'est pas bien du tout. Ce qui n'est pas le cas avec chacun d'entre vous. Vous voyez, mais là je crois qu'il y a un lieu important de discernement. C'est que trop souvent, nous allons considérer que notre vie chrétienne, elle est ailleurs. Donc ailleurs, on a des responsabilités dans notre travail. Bon, je suis sûr que je m'occuperai mieux d'un groupe de travail, d'un groupe de prière, que, je sais pas moi, de mon boulot et de mon rapport avec les gens avec qui je travaille. Ça, c'est purement humain, ça. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Mais je suis désolé, tout a à voir avec l'Évangile. Et le propre de la vocation de laïc, c'est d'enraciner l'Évangile, j'allais dire, dans l'empirisme de notre existence. Dans le quotidien le plus banal. Il y a plusieurs exemples c'est mon expérience, ma petite expérience me montre que, vous voyez, par exemple chez la femme, on fuit l'éducation des enfants pour s'occuper de quantité de choses qui sont canonisables parce que le curé les canonise, parce qu'il en a besoin, mais qui en tant que telles sont peut-être pas automatiquement canonisables. Parce que je suis plus dans mon lieu pour porter du fruit. Quel est le lieu principal pour une mère de famille de porter du fruit? C'est d'abord à travers l'amour de son époux et à travers l'éducation de ses enfants et l'amour de ses enfants. Ou le travail, bien sûr, s'il y a la nécessité du travail. Et non pas d'abord en faisant la grenouille dans le bénitier du curé, en faisant partie de tous les clubs tricots qu'il y a sur une paroisse. Mais autrement, ce que j'appelle un club tricot, c'est de toute façon, vous faites tout et n'importe quoi, vous avez ces personnes-là qui viennent. Aussi bien quelque chose sur un chemin de croix ou sur une réflexion sur l'organisation du standard dans la paroisse, si vous voulez. Quoi qu'il se passe, de toute façon, vous avez ces personnes tricot. Vous voyez, bon, il est quand même important de discerner le lieu où je dois porter du fruit. Comment se fait-il qu'on veut à tout prix sortir de son conditionnement et de sa vie pour porter du fruit, alors que c'est dans sa vie qu'on doit en porter? Et l'engagement du laïc, justement, c'est d'être là où il est et non pas de croire d'être où il n'est pas. Mais c'est le principe de l'ordinateur. Je crois être où je ne suis pas, et je ne suis pas où je suis. Ce qui fait qu'on est présent nulle part, tout compte fait. Et il n'y a rien de plus pénible de croiser quelqu'un, on a l'impression qu'il n'est pas là. Vous voyez, c'est rencontrer quelqu'un dans son milieu familial, on a l'impression qu'il s'ennuie. Et ça pose quand même un problème. Et le seul lieu où il est bien, c'est justement en dehors de son milieu familial. Et ça, c'est la tentation de l'époux. On est bien dans le boulot, dès qu'on rentre à la maison, au secours. Ça peut arriver, hein. Bon, pas parmi nous. Mais vous voyez, je crois que c'est quand même important de voir que... Et là, il y a une exigence d'enracinement. Cette exigence d'enracinement, ben, c'est la vie du fidèle laïc, comme une vie extraordinaire.